France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Pour en revenir à Madame de Noailles, elle était toute recuidante. Elle avait d'elle-même une très haute idée et elle voulait que les autres en aient une plus haute encore. Je me souviens que, par reconnaissance pour sa collaboration, j'avais amené un critique assez récalcitrant à la traiter dans mes colonnes de grande poétesse. Elle m'a écrit une lettre furibonde pour expliquer qu'elle n'était pas une grande poétesse, mais qu'elle était la plus grande poétesse de tous les temps.
Mais qui était donc la plus grande poétesse de tous les temps? Qui était donc Anna de Noailles, celle qui avait eu l'outrecuidance de s'auto-proclamer ainsi? 90 ans, presque jour pour jour après sa mort, et alors qu'elle est tombée dans l'oubli, la question se pose d'autant plus. Quelle a été l'œuvre d'Anna de Noailles? Pourquoi a-t-elle été marquée par son temps, dans son temps, mais pourquoi n'a-t-elle pas marqué le nôtre? Pour le savoir, écoutons-la, mais attention, tendez bien l'oreille.
J'écris pour que le jour je ne serai plus grossasse comme l'air, le plaisir rempli, et que mon livre porte à la foule future, comme j'aime la vie de l'heureuse nature. Attentive aux travaux des champs et des maisons, de marquer chaque jour la forme des saisons, parce que l'eau, la terre et la montante flamme, ont eu l'endroit de son fond et de mon âme. J'ai vu ce que j'ai vu et ce que j'ai senti, d'un cœur pour qui le vrai ne fût point trop ardu. Et j'ai eu cet ardeur par l'amour intimé, pour être après la mort parfois encore aimé. Et qu'un jeune homme alors, lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié de tout de réel, m'accueille dans ton âme le préfère.
Bonjour François Raviez.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université d'Artois, spécialiste de Saint-Simon de Châteaubriand et d'Anna de Noailles. Ça tombe bien puisqu'on parle d'elle aujourd'hui et durant l'heure qui vient. Vous avez édité l'anthologie poétique et romanesque « Je n'étais pas faite pour être morte » d'Anna de Noailles. Donc, c'est disponible aux éditions Le Livre de Poche. On vient d'entendre, je dois dire, une archive exceptionnelle quand même de 1921. Anna de Noailles lit elle-même son poème « J'écris pour que le jour où je ne serai plus ». C'est un poème qui est paru en 1902 dans le recueil « L'ombre des jours ». Alors c'est vrai quand même que c'est une archive où on a eu du mal à entendre ce qu'elle disait. Mais quand même, un de ses premiers poèmes s'intitule « J'écris pour que le jour où je ne serai plus ». C'est quand même bizarre, non, comme premier poème?
C'est une véritable archive d'outre-tombe que vous proposez en début d'émission. C'est un de ses textes les plus personnels et en même temps les plus émouvants. Parce qu'Anna de Noailles, qui est vraiment la poétesse de la vie, de l'énergie, de l'enthousiasme et de la nature, est aussi la poétesse de la mort. C'est aussi celle qui pense en permanence à la mort. Et je voudrais relire simplement la dernière strophe de ce poème.
Oui, je pense qu'il faut le faire pour que les auditeurs et auditrices n'ont pas forcément tout
bruit,
entendu.
Le bruit du temps avait un peu occulté sa voix. La dernière strophe dit ceci, « Et qu'un jeune homme alors, lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié des compagnes réelles, m'accueille dans son âme et me préfère à elle. » Vous avez noté le premier vers. « Et qu'un jeune homme, alors lisant ce que j'écris et non pas ce que j'ai écrit. » Elle a une prétention à un présent perpétuel, à une sorte d'éternité du texte, d'éternité du poème. Et chacun de ces recueils célèbre en quelque sorte l'intensité du moment, l'intensité de l'instant, ce qu'on pourrait appeler l'éternité du périssable. Et j'écris pour que le jour où je ne serai plus rappelle Baudelaire, évidemment, par sa tonalité. Mais il y a aussi une voix très particulière qui se fait entendre dès le départ, c'est-à-dire une voix qui est hantée par l'énergie du monde, qui est éblouie par le monde. Ce sera son grand recueil de 1907, Les Éblouissements, mais qui revendiquera dans son dernier recueil de poèmes l'honneur de souffrir. Donc une double personnalité. Une personnalité d'une grande mondaine, d'une aristocrate, donc quelqu'un de très brillant, dont la conversation était une véritable pyrotechnie. On dit que c'était un feu d'artifice, d'image, d'esprit et d'intelligence, mais qui était aussi, à sa manière, pudique et en même temps ostentatoire, une grande souffrante.
Oui, voilà, c'est ça. On y reviendra, hein, François Ravièse, mais elle a été quand même très angoissée, souvent malade. Il y a quand même une part d'elle extrêmement ombrageuse. Mais avant d'aborder un petit peu ses contradictions dans son œuvre, d'un côté très énergique et de l'autre très sombre, expliquez-nous quand même pourquoi celle qui a voulu être la plus grande poétesse de tous les temps, hein, vous avez parlé de prétention, on peut l'entendre dans tous les sens du terme, hein, à la fois d'ambition mais aussi de un petit peu présomptueuse, pourquoi est-ce qu'elle a été oubliée? Pourquoi Anna de Noailles, bah, quand on en parle, bah voilà, ça n'évoque pas forcément grand-chose?
Alors c'est un très grand mystère que l'oubli, quand on parle de littérature. Il est tradition de dire que les écrivains, quelque temps après leur mort, pendant quelques décennies, entrent dans un purgatoire. Purgatoire dont ils ressortent généralement, au bout d'un certain nombre d'années, on les redécouvre.
Bah, pas tous, hein.
Pas tous. Anna de Noailles fait partie de ceux, précisément, qui a beaucoup de mal à sortir du purgatoire et à revenir sur le devant de la scène. On peut dire pourtant qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, puisqu'elle a publié dès ses jeunes années... Ce qui ne va pas de soi, parce que c'est une aristocrate, et une aristocrate n'a pas pour fonction de publier des recueils de vers, ni de faire de la littérature. Elle a publié en 6 ans, 3 recueils de vers et 3 romans. Alors, faut peut-être préciser qu'elle est née en novembre 1876, qu'elle mourra en avril 1933, donc le 30 avril, c'est pour ça qu'on est dans le 90e anniversaire de commémoration de sa mort. Et son œuvre se caractérise dès le départ par son abondance. Alors, il y a une sorte de copieur rhétorique chez elle, c'est-à-dire, elle a, comme dit Saint-Simon, la parole forte à la main. Les mots viennent d'eux-mêmes, et les mots sous forme d'alexandrins, et les alexandrins sous forme de poèmes. On a l'impression d'une littérature absolument inépuisable. Je vais donner quelques références. Son premier recueil date de 1901, c'est « Le cœur innombrable ». Mmh. Il est suivi en 1902 de « L'ombre des jours », et il est suivi en 1907 des « Éblouissements », qui est un très gros recueil composé à l'ancienne, c'est-à-dire à la manière du 19e siècle, avec plusieurs parties, un ordre. Donc c'est un recueil qui raconte une histoire, comme les contemplations, comme les fleurs du mal, comme les châtiments. Donc c'est un recueil qui est bien structuré. On peut dire que c'est le dernier grand recueil très structuré et très, très, très abondant, très généreux de la littérature française. Mais vous notez qu'entre 1902 et 1907, elle publie 3 romans au rythme de 1 roman par an. C'est-à-dire 1903, La Nouvelle Espérance, 1904, Le Visage Émerveillé et 1905, La Domination. Alors, je précise tout de suite que sa carrière poétique ne s'arrêtera pas là. Il y aura encore 4 recueils de poèmes. Il y aura des textes en prose, des textes en prose poétique. Il y aura un livre de souvenirs qui s'appelle Le Livre de ma vie qui est interrompu par la mort. Donc, c'est une poétesse qui est, non pas prolifique, mais extrêmement prolifique. Elle a une parole aisée. Elle fait des vers comme on respire. Quand elle parle en public, dans le grand monde, tout le monde se tait et elle occupe la soirée avec un monologue absolument irrépressible. Donc, de son vivant, elle avait cette réputation d'abondance, de conversation éblouissante. Et alors, il n'est pas totalement impossible qu'on retrouve quelques traces précisément de cette conversation chez Oriane de Guermantes dans La Recherche du Temps Perdu. Madame de Noailles, elle aime les bons mots, elle aime les réparties, parfois cruelles, assez spirituelles. Et il est clair qu'après la Première Guerre mondiale, elle est encore très connue, mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est terminé. Elle est entrée dans un purgatoire dont elle n'est toujours pas sortie.
Donc quand elle meurt en 1933, François Ravièse, elle est moins au fait quand même de son succès. Ça s'est déjà quand même un petit peu atténué. Et donc quand elle meurt, bah là, oubli. Oubli de Anna de Noailles. Pourtant, elle a quand même évolué dans des cercles littéraires. Vous avez parlé d'Oriane de Guermantes. Il faut dire quand même qu'elle était très proche de Proust. Elle a fréquenté Mauriac, Barrès, Maurice Chevalier. Enfin, voilà. Donc, est-ce que aussi on l'a oublié parce que elle est très rattachée à une époque, à un temps qui après a été révolu, et puis aussi parce qu'elle était l'héritière, hein, parce que vous l'avez dit, elle fait des vers comme elle respire. Mais en fait, parfois, c'est un petit peu daté quand on la lit. C'est-à-dire que là, en 2023, ce qu'elle fait nous semble appartenir à un autre temps.
Ça semble appartenir au 19e siècle.
Alors, qui est du début du 20e.
Voilà, on entend des harmoniques qui viennent de Lamartine. On entend des échos qui viennent des fleurs du mal. et dans l'abondance verbale perpétuelle, plus ou moins autobiographique, on entend du Victor Hugo. Alors, elle a certainement été desservie par ce statut assez intermédiaire. Est-ce que c'est une poétesse du XXe siècle qui écrit comme au XIXe siècle et qui n'a pas intégré du tout les nouveautés poétiques qui viennent à partir du mouvement Dada et du surréalisme ? Donc, évidemment, elle est, comme vous dites, elle est datée, sans être pour ça obsolète. Ça, c'est une première explication. Et elle appartient à un monde qui fait plus ou moins naufrage avec la Première Guerre mondiale. C'est toute l'histoire qui est dans la recherche du temps perdu, où on voit l'aristocratie dans ses derniers feux. Et elle appartient précisément au monde dans lequel Proust a évolué et qui décrit dans la recherche du temps perdu. Elle est d'un autre temps.
Elle est d'un autre temps, et donc c'est ce qui explique donc qu'on ait oublié Anna Noël. On va tout de suite, François Raviez, écouter une pièce radiophonique qui raconte la vie d'Anna de Noël et donc ses relations avec Marcel Proust.
Mais voilà, mon cher Marcel. Combien de temps me faudra-t-il attendre que vous me parliez de vous ?
Madame, je vous en supplie, cessez d'être aussi gentil, car je ne peux plus le supporter. C'est un poids de bonheur, d'émotion, de stupéfaction qui est trop fort et j'en mourrai. J'ai été si souffrant et vos lettres m'ont fait vivre pendant mes jours de maladie une vie des mille et une nuits, qui a aboli en moi le sens de la réalité. Tellement que je n'ai été nullement étonné quand on m'a dit que vous aviez été chez moi.
Oh, parlez, Marcel. Si vous saviez le bien que vous me faites à me prouver que ce n'est pas tout à fait en vain que je mets tant de courage à vivre encore pour ceux qui m'aiment. C'est fini, je suis épuisée, je vais mourir.
Quels autres mortels avez-vous ravis pendant que je dormais ?
À vous seul, mon petit Marcel, je lirai la lettre admirable que le courrier de ce matin m'a apportée. Elle est de Georges Bernanos, là. Tenez ce papier sous la lampe. Merci, là. Je suis un ours. Non plus loin. Je ne puis plus seulement ouvrir l'un de vos livres sans rougir de vous avoir laissé ignorer qu'ils sont depuis longtemps mes ennemis familiers, que je repousse de toutes mes forces ce grand bruit que vous faites de mers lointaines et de feuilles remuées, et qu'un des buts de ma pauvre vie est de vous renoncer parfaitement. Je sais bien que la dernière grossièreté serait de vous en demander pardon.
Oui.
Pourtant, l'ai-je assez dit dans ce poème où je pleurais d'avance ma peur ? Hélas, tu t'en iras un jour de moi, jeunesse. Tu t'en iras, tenant l'amour entre tes bras.
Anna de Noailles, poétesse extraordinaire, c'est une pièce radiophonique diffusée pour la première fois le 3 mai 1954 sur la chaîne nationale dans l'émission Leur figure. On entend donc cette mise en scène de la relation amicale, intellectuelle entre Anna de Noailles et Marcel Proust. Anna de Noailles qui raconte avoir reçu une lettre de Georges Bernanos. On voit bien qu'Anna de Noailles évoluait dans un cercle littéraire particulier. Pour bien comprendre qui elle était et ce qu'elle a écrit, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire en fait le monde dans lequel elle a évolué, aristocrate, vous l'avez dit, mondain, mais quoi d'autre ? Quoi en particulier ? Quel type d'atmosphère ?
Alors, c'est une atmosphère qu'on pourrait qualifier par une expression bien connue. Ce sont des gens qui mènent la vie de château. C'est-à-dire, on est dans la haute aristocratie européenne, parisienne, bien entendu, avec ses mécènes, avec ses vedettes, dont fait partie justement Anna de Noailles. Proust lui fait un cadeau absolument merveilleux dans la recherche du temps perdu, puisqu'il parle d'elle sans citer son nom. Et voilà comment il la qualifie, ce qui est assez intéressant pour voir quel type de relation ils avaient. Il a décrit comme, je cite, « une jeune princesse d'Orient qui, disait-on, faisait des vers aussi beaux que ceux de Victor Hugo ou d'Alfred de Vigny et à qui, malgré cela, on supposait un esprit autre que ce qu'on pouvait concevoir, un esprit de princesse d'Orient recluse dans un palais des mille et une nuits. » Alors, les mille et une nuits, qui sont une des sources de la recherche du temps perdu, ce que je retiens, c'est qu'elle est associée à Victor Hugo et Alfred de Vigny. Et alors, il y a une conversation qui est très... une véritable conversation par lettre entre Proust et Anna de Noailles, qui est publiée, où Proust fait preuve de dithyrambe perpétuelle. Enfin, c'est une poésie, pour lui, qui va plus loin que la légende des siècles. Enfin, il tient des propos totalement hyperboliques, et elle lui répond, flattée, mais en disant, mon cher Marcel, vous exagérez un peu, mais en même temps, elle prend ça pour argent comptant.
Et vous êtes d'accord avec Proust ?
Proust avait tendance à faire des éloges démesurés des gens qu'il aimait. Alors, évidemment, l'intensité de l'hyperbole, quand il parle d'Anna de Noailles, prouve qu'il devait l'avoir en très très haute estime et en très très haute affection. Il y a une photographie qui représente Proust à l'arrière-plan, et on voit alors plusieurs personnages de ce petit monde. Il y a les Polignac, il y a sa sœur Hélène qui est devant, il y a quelques écrivains, et on voit un Proust légèrement en retrait qui observe et qui écoute. Et c'est avec ce matériau social, sociologique, littéralement, avec tout cet esprit, avec cette vie facile, qui va fabriquer ces aristocrates de la recherche du temps perdu. Donc ils ont une relation qui était très intense, mais je pense qu'au fond de lui-même, il a considéré toujours un peu comme un phénomène qu'il fallait observer, qu'il fallait contempler pour en tirer en quelque sorte l'essence. Et dans les lettres, on se rend compte en particulier qu'il aime bien la provoquer en disant comment pouvez-vous être génial dans votre prochain recueil, dans vos prochains poèmes, vous ne pourrez pas atteindre ce niveau de génie. Et elle a le plaisir de lui répondre, mais si, vous allez voir, attendez.
Mais on dirait un peu des meilleurs amis qui se flattent aussi, c'est-à-dire qui entretiennent de manière un petit peu factice, comme quelqu'un dirait, je t'aime ma chérie, t'es magnifique, c'est la plus belle.
C'est une flatterie perpétuelle dont aucun des deux n'était dupe, mais qui faisait partie de leur relation.
Qui était une relation sincère, quand même.
Qui était une relation sincère et de grande estime réciproque, je pense. Et ils finiront tous les deux, si j'ose dire, de la même manière, c'est-à-dire reclus dans leur appartement, à ne plus pouvoir sortir. Proust à écrire La Recherche et Madame de Noailles à écrire ses derniers vers.
Est-ce qu'ils avaient aussi une relation intellectuelle, c'est-à-dire par exemple de relecture, de commentaires, de manuscrits, de retouches, ou est-ce que vraiment c'était plutôt des envois de livres finis une fois qu'ils étaient publiés et là des critiques dithyrambiques?
On est plutôt dans le deuxième cas, dans la mesure où Proust est un juge expert de tout ce qui est écrit. Hein. Bien entendu, il sait ce que c'est que le français, que la langue, etc. Et à mon avis, en flattant Anna de Noailles, c'est une manière pour lui de rester dans ses bonne grâce, et justement de pouvoir l'observer de plus près, de voir jusqu'où peut aller la politesse quand elle devient démesurée. C'est un jeu, en réalité, entre eux. Et alors, c'est un jeu qui est sincère en partie, mais qui passe effectivement par des artifices, des formules de style, et cette espèce d'éloge perpétuel qui est surtout dans un seul sens, c'est-à-dire c'est Marcel qui ne cesse de flatter Anna.
Ce qui est quand même très drôle quand on y pense maintenant.
Et c'est aussi d'une certaine manière Marcel qui est flatté de connaître Anna.
Alors voilà, quel était le pouvoir de Anna de Noailles? Parce qu'on a presque l'impression que Proust, vous l'avez dit, hein, François Raviès voulait rester dans ses bonnes grâces, observer le phénomène. Alors ça c'est un phénomène, c'est sûr, elle a écrit beaucoup, elle a écrit très jeune, elle a quand même commencé une vingtaine d'années, mais est-ce qu'en fait elle avait un pouvoir presque de grâce et de disgrâce, en fait, dans ce milieu littéraire mondain à la tête duquel elle semblait être.
Ces bons mots étaient redoutés. Ces bons mots étaient terribles.
Une cour, quoi.
Oui, elle avait presque une cour autour d'elle. Et ces bons mots étaient définitifs. Alors, on entend circuler les mots de Madame de Noailles qui a dit lors de la dernière soirée quelque chose qui, généralement, est assez assassin. Je vous en donne un.
Oui, j'allais vous dire un autre exemple.
Il semblerait qu'on lui ait parlé, après la Première Guerre mondiale, des surréalistes, en lui demandant qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes gens. Donc c'était le jeune Breton, le jeune Aragon, etc. Et elle aurait pris, d'après les témoins, un air un peu pincé pour dire « Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas les tuer tous ?» Alors bien entendu, on est dans l'humour noir, mais il y a une vérité. Il y a une vérité, quelque part, derrière. Elle sent qu'il se passe quelque chose de neuf. Et que cette nouveauté, elle ne pourra pas y appartenir, et qu'elle est en dehors de cette nouveauté.
Elle fait ancien monde, en fait.
Elle est dans l'alexandrin. Sa passion, c'est l'alexandrin, c'est la prosodie, c'est le vers classique, avec ses innombrables possibilités rythmiques, sonores, rhétoriques. Alors évidemment, elle a été certainement un peu surprise par cette poésie nouvelle qui arrivait après la Première Guerre mondiale, et qui l'a laissée de côté. Et pour ces jeunes gens qu'elle voulait tuer, entre guillemets, évidemment, Madame de Noailles appartient à un monde dont ils font pas partie.
Donc c'est plutôt eux qui l'ont tuée, finalement. En fait, elle a jamais appartenu à aucun courant. Le courant dont elle était héritière était déjà fini, à savoir les grands romantiques, on pourrait dire. Donc pour elle, c'était déjà... En fait, elle a commencé, c'était déjà fini, paradoxalement.
J'ai envie de dire qu'après la Première Guerre mondiale... Il y a certainement encore des romantiques jusqu'à maintenant, au XXIe siècle, mais ils ne font plus d'alexandrin. Alors qu'elle, tout événement de son existence, toute sensation, toute impression devient poème, devient alexandrin. Ça m'a fait penser à la formule de Chateaubriand qui dit « Moi, vous savez, je ne suis plus qu'une machine à livres. » Madame de Noailles, c'est une machine à poèmes.
Je pense que pour qu'on en ait une idée, François Raviez, il faut que l'on écoute un poème, évidemment, d'Anna de Noailles. C'est un poème qui s'appelle « Prière devant le soleil » et c'est extrait du recueil « Les éblouissements ».
Ma joie est un jardin dont vous êtes la rose, énorme soleil d'or, flamme en corolle éclose, héros d'ardents regards et de flèches armées, soleil, mille soleils en vous seul enfermés, immobile splendeur dont la face tournoie apporte plaisir de rayons et de joie, archange au seuil du jour, soleil essentiel, dont les rayons glissants comme des fils de miel pendent sur les jardins et se tissent aux lières. Oh, soleil bourdonnant, cymbale de lumière, fanfare étincelante, élan de flûte d'or, laissez que les deux bras levés, en quel essor, je vous répète un chant infini. Monotone, peut-être qu'autrefois Sophocle et Antigone vous ont d'un tel amour impétueux servi, mais depuis, dans le temps indolent où je vis, à l'époque d'orgueil amer où je suis né, au travers de la molle et pliante journée, nul ne vous a d'un geste ardent et sibyllin, entouré de ses bras, gerbe de blé divin. Moi seul, en vous voyant, je prie et je chancelle, il semble qu'en mon cœur un aigle ouvre ses ailes, et qu'en rose, l'été fait éclore mon sang, quand vous apparaissez, beau soleil jaillissant. La prière devant le soleil, poème d'Anna de Noailles, extrait de son recueil Les éblouissements, lu par Marie Marquet, actrice française, qui est née en 1895, disparue en 1979. Alors là, François Raviez, on était dedans, dans le lyrisme.
C'était magnifique. Alors, plus personne ne lit les vers ainsi. On peut peut-être le regretter. Si on veut résumer, elle fait de l'emphase la condition de l'authenticité. C'est-à-dire que l'émotion intérieure passe nécessairement par une vocalisation qu'on va maintenant juger extrême, mais qui pour l'époque fait partie de la déclamation, fait partie des usages du temps. On l'a entendu lire un de ses poèmes au début de l'émission, c'est comme ça qu'elle lit son texte.
Tout poème est fait pour être lu voilà. À voix haute et non pas lu dans l'intimité
Exactement.
De sa chambre, dans sa tête.
Comme pendant des siècles, on a lu la poésie. On l'a lu en public, on l'a déclamé, on l'a récité, on l'a vocalisé, on l'a oralisé. Et c'est nous qui avons fait de la poésie une lecture secrète, à voix basse, dans le secret de nos âmes. Alors que des textes comme la prière devant le soleil, qui sont évidemment extrêmement rhétoriques, extrêmement emphatiques, ce sont des textes qui sont d'une très très grande richesse, non seulement sensorielle, mais beaucoup plus que ça. C'est un texte d'une grande richesse philosophique et d'une grande richesse religieuse. Et on a tendance à oublier peut-être cette richesse de second plan parce qu'on est absolument fasciné par cette diction qui d'abord fait sourire, mais qui dans un second temps s'avère totalement nécessaire pour ce genre de texte.
Et alors nécessaire justement pourquoi ? Pour saisir quoi ? De cet aspect emphatique, vous disiez, c'est ça François Raviez ?
Oui, pour saisir l'enthousiasme. Dans les trois premiers grands recueils, qui vont donc jusqu'aux éblouissements, et dans beaucoup de textes des vivants et des morts, et puis des forces éternelles, le grand thème, c'est l'énergie de vivre. C'est une passion de vivre. Et son œuvre devient une œuvre à la fois passionnée et passionnelle. Parce que c'est une œuvre qui veut s'approprier la totalité du monde, la totalité de l'expérience. Alors, par les sens, évidemment, par la sensation qui est omniprésente, j'ai envie de dire que quiconque a respiré avec plaisir l'odeur de la pluie ou bien a vu se lever le soleil un matin, ou bien a été sensible à la chaleur qui retombe un soir d'été. Si vous avez été sensible à ça, vous êtes prêt à lire Anna de Noailles, parce que l'essentiel de son œuvre, la thématique majeure, c'est ce rapport au monde. On est devant une œuvre qu'on pourrait traiter sur le mode de la phénoménologie. Il y a une grande part de sensorialité, une surenchère émotionnelle perpétuelle qui fait que toute expérience physique est littéralement transfigurée. Et transfigurée par ce passage à un mode de diction et à un mode d'écriture qui est la récitation de l'alexandrin sur ce mode traditionnel, effectivement, qu'on a malheureusement un peu perdu. C'est une œuvre d'enthousiasme, il faut le dire. C'est une œuvre, en même temps, bien sûr, de détachement, de stoïcisme, avec une espèce de sagesse désespérée dans la fin de son existence. Mais se souvenons-nous quand même que son recueil majeur s'appelle « Les éblouissements ». Être ébloui, c'est être devant quelque chose qui nous traverse totalement. C'est voir le monde de manière transfigurée, être dans un rapport pratiquement d'adoration et de passion d'exister devant le monde. Et pour elle, la passion d'exister, ça passe par l'écriture. Ça passe par la page, ça passe par la plume. Il y a quelque chose en elle qui est littéralement extatique.
Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a un renouvellement du lyrisme ? En fait, je pense que c'est un terme qu'on emploie beaucoup. On dit très facilement, ça c'est une œuvre lyrique, oh, ça c'est dans la veine romantique et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, le lyrisme au fond ? Comment vous le définiriez, vous, le lyrisme ? Est-ce que c'est ce qu'on a entendu là ? Est-ce que c'est dans cette manière de déclamer ? Est-ce que c'est dans cette manière d'écrire ? Est-ce que c'est dans ces poèmes de fusion, de rêve panthéiste avec la nature ?
Le lyrisme, c'est une tradition. C'est une tradition qui remonte très loin. Et tout l'art d'Anna de Noailles consiste à s'approprier cette tradition et à la rendre personnelle. C'est-à-dire, l'énergie qu'elle met à écrire, à transcrire et à transfigurer le monde, c'est l'énergie qu'elle a eue en elle lorsqu'elle a ressenti ce monde. Elle a quelque chose d'hypersensoriel, une sorte d'hyperesthésie, en quelque sorte, qui est en permanence à l'œuvre chez elle. D'où, évidemment, le désespoir devant tout ce qui est périssable. Parce que l'été, évidemment, par exemple, l'été, c'est un thème majeur. Dans tous ces recueils, vous avez soir d'été, désespoir en été, pluie en été, etc. etc.
L'été sous toutes ses formes.
L'été sous toutes ses formes. La pluie, la lumière. Donc, ce sont des moments de très grande intensité pour elle, où il se passe quelque chose de vraiment authentiquement vivant. Mais notons que l'été, par définition, est périssable et aboutira à la mauvaise saison, que la pluie finira par s'arrêter et que la lumière finira par s'éteindre. Donc, il y a en elle en permanence cette volonté de perpétuer l'instant et de dire, sous une forme classique, lyrique, en alexandrin absolument parfait, de dire tout ce qui n'est pas dit, mais ce qui est ressenti chez l'être humain. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment une œuvre qui repose sur l'ineffable.
Donc le lyrisme, c'est de dire ce qui est ineffable en nous et ce qui est périssable en nous. C'est ça ?
Et les émotions qui sont précisément induites par ce sentiment à la fois d'intensité au présent, mais qui est en même temps prélude à une catastrophe future. « Je n'étais pas faite pour être morte », dit-elle dans un de ses textes.
Dans la prière devant le soleil, il faut le dire quand même, François Ravias, c'est quand même un poème où là, on a entendu 1 minute 30, il me semble, 1 minute 24 secondes précisément de déclamation. Mais en fait, c'est un poème qui fait 4 pages, 5 pages. Donc ça rejoint l'idée de l'abondance de son écriture, mais vraiment aussi d'idée de jaillissement de l'écriture. En fait, elle est possédée par l'écriture et elle ne fait presque que suivre ce qui se produit en elle. Comment vous expliquez ce paradoxe entre cette sorte de jaillissement spontané, naturel, et en même temps cette manière d'écrire qui est très classique, qui rentre parfaitement dans les codes, dans le cadre de la poésie classique, avec des vers, des rimes plates, des rimes croisées, des vers pairs et impairs, surtout pairs. Vous allez pouvoir rentrer dans les détails beaucoup mieux que moi, François Ravias.
Alors évidemment, si on l'aborde sous l'angle stylistique, on va chercher les figures, on va regarder la syntaxe, on va regarder quel vocabulaire elle utilise, mais je crois que c'est pas du tout la façon dont elle procède.
Le lyrisme, c'est-à-dire qu'elle écrit naturellement.
Elle écrit spontanément, naturellement, pratiquement sans se corriger. Quand on regarde les manuscrits de certains poèmes, c'est un véritable jaillissement intuitif, immédiat. Alors, les mauvaises langues ont dit, de temps en temps, il manquait un pied, il manquait deux pieds, elle rajoutait un adjectif, elle rajoutait un adverbe.
Rien de très grave, finalement.
Mais qu'est-ce que ça peut faire, de toute façon, puisqu'il y a dans ces textes une fluidité perpétuelle.
Vous voulez dire qu'elle écrivait de manière naturelle, dans les bons pieds, avec la bonne métrique ?
Oui, comme tous les grands poètes. Un grand poète ne se pose pas la question du nombre de pieds. C'est Léo Ferré qui disait « Un poète qui doit compter ses pieds sur ses doigts n'est pas un poète, mais une sténodactylographe. » Et elle a l'alexandrin naturel, elle écrit des alexandrins comme on respire.
Mais alors ça, c'est peut-être une autre question qui nous éloigne d'Anna de Noailles, François Raviez, mais comment vous expliquez que naturellement la poésie s'écrit en alexandrin ou en nombre de pieds ? Vous pensez que les émotions qu'on a en nous, l'écriture de la poésie, ça procède toujours de manière réglée, maîtrisée à ce point-là ? Ou c'est presque que la poésie, naturellement, elle est faite, elle s'exprime que comme ça ?
Peut-être que pour elle, la poésie et l'intensité du monde et les émotions s'expriment mieux sous forme de poèmes et sous forme prosodique, avec des rimes, avec ce qui peut nous sembler rébarbatif. Si nous, on essaye de faire des alexandrins, ça sera peut-être un peu piteux, mais pas pour elle. Elle a l'alexandrin littéralement dans le sang. Et donc les images viennent naturellement, viennent spontanément. Et quand on fait une anthologie, on est confronté à des choix douloureux parce qu'on ne peut pas tout mettre, évidemment. L'anthologie que j'ai faite, elle aurait pu être trois fois plus importante, elle aurait pu être trois fois plus grande. On finit par oublier que faire des vers pour un grand poète, c'est son mode naturel d'existence. C'est inné, pratiquement. C'est quelque chose qui ne calcule pas en comptant les pieds. Un grand poète ne prend pas un dictionnaire de rimes pour se demander ce qu'il va mettre comme rime si vous avez une terminaison qui est un petit peu difficile. Madame de Noailles, elle a la poésie spontanée, comme la conversation qu'elle a, qui est absolument spontanée. Et à mon avis, il faut le dire aussi, au prix d'une dépense d'énergie énorme. Si à la fin de sa vie elle est si malade, si fatiguée, si épuisée, etc., c'est que c'est une sorte de fatigue nerveuse et de fatigue d'écriture qui fait que dans les deux derniers recueils, alors ça c'est absolument révolutionnaire dans sa poésie, elle va passer à l'octosyllabe. Les deux derniers recueils sont basés sur toutes les possibilités, justement, de l'octosyllabe, qui est un vers aussi riche que l'alexandrin, qui est aussi intéressant. Et elle va quitter la grande forme majestueuse, la prière devant le soleil, la tirade, etc., le monologue, pour une forme qui se rapproche parfois du haïku.
Alors, qu'est-ce que ça exprime de différent comme évolution, justement, dans son œuvre, François Raviez ?
Alors, je pense qu'on est toujours pour elle dans l'exploration de l'intériorité et dans l'exploration de l'intensité. D'un côté, dans les premières œuvres, c'est une intériorité qui se veut exhaustive, c'est-à-dire qui essaie de tout dire, qui explore la métaphore, qui explore les rythmes, qui explore toutes les possibilités de la syntaxe. Alors, on l'a vu dans le texte « La prière devant le soleil », enfin, c'est des séries d'énumérations, d'images qui se suivent à l'infini. Alors que dans les deux derniers recueils, c'est-à-dire « Poème de l'amour » et « L'honneur de souffrir », elle réduit. Elle concentre, elle va vers une expression beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus simple, beaucoup plus concentrée, parce que, justement, l'exploration de soi peut passer aussi par une forme brève.
Ce qui est frappant pour quelqu'un que vous avez décrit au départ, François Raviez, comme de presque logorique, c'est-à-dire dans l'abondance de l'écriture.
On peut dire qu'elle est logoréique dans un premier temps, effectivement. Mais son roman La Nouvelle Espérance montre bien que l'héroïne a une part lyrique qu'elle essaie d'exprimer autour d'elle et les hommes qui sont autour d'elle ne comprennent absolument pas ce langage. Ils veulent qu'elle tienne un langage normal, rationnel, pondéré. Et donc, elle a eu accès, je pense, aux profondeurs de son énergie et d'elle-même pendant un certain nombre d'années. Elle est littéralement inspirée quand elle écrit. On peut dire que la muse lui souffle tous ses textes. Mais elle montre bien que c'est une situation dans le monde réel qui est invivable. Sauf à être, évidemment, reconnue comme la plus grande poétesse de tous les temps. Où là, il y a un apport narcissique.
Ce qu'elle a été d'une certaine manière, hein, parce que juste, je le signale, elle a quand même reçu beaucoup de prix. Par exemple, elle a, je l'ai pas là sous les yeux, mais elle a été quand même reçue à l'Académie
belge,
exactement.
Oui, oui.
Elle a pu exposer, elle a eu d'énormes succès. Elle a reçu des prix de l'Académie française, le Grand prix de l'Académie française. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a été extrêmement reconnu d'une certaine manière. Elle a réussi de ce côté-là pour sa poésie notamment. Mais c'est le moment de parler d'un autre type d'écriture chez Anna de Noailles, François de Ravies, c'est la prose avec son roman La Bonne Espérance.
Les jours qui suivirent le départ de Philippe furent pour Sabine plus simples qu'elle n'avait pensé. Une grande fatigue amollissait en elle la force des images. Elle goûtait presque les loisirs et le repos. Elle aima dormir, flâner dans sa maison solitaire, jouer du piano. Elle recevait de Philippe des lettres ardentes et vives, mêlées de ce rire juvénile, de cette possibilité d'être attentif à tout et de se réjouir de cet amour des choses qui était si beau sur son visage et dans sa vie. Elle rêvait de lui doucement. L'automne venait, vert encore et froid, comme une poire savoureuse. Elle eut, dans Paris où elle était restée par faiblesse et lassitude, une vision tourmentante de la campagne et de ses plaisirs passés. Elle se rappelait un été de son enfance dans le Tyrol, avec d'agrestes matins frais et chauds qui sentaient le soleil, la terre mouillée, la mousse et le cyclamen. Une nostalgie lui vint aussi de la Touraine, du jardin de son adolescence que son père avait vendu, qu'elle ne reverrait plus. Elle se souvint du verger, des dahlias semblables à de petites roues jaunes et rouges et couverts de froides rosées, de l'odeur de grains et d'eau du colombier. Elle avait mordu des roses qui devenaient alors de tendres cadavres fades et pâlissants, sucé des cailloux ronds, couleur de sucre gris et de muguet, et tenu dans ses mains des grenouilles angoissées dont le petit cou battait ainsi que peut battre, au plus secret des corolles molles, le pouls des fleurs délicieuses.
France Culture, sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie.
Alors pardon, j'ai dit La Bonne Espérance, mais en fait il s'agit de La Nouvelle Espérance. C'est le premier roman d'Anna de Noailles. On vient d'en entendre un extrait lu par Anaïs Isbert. Comment pourriez-vous décrire ce passage de la poésie à la prose dans l'œuvre d'Anna de Noailles, François Ravies?
Alors il faut peut-être dire qu'elle a eu un très grand succès dès le départ, avec Le cœur innombrable en 1901 et avec L'ombre des jours en 1902. Donc le passage à la prose, c'est un passage d'abord à une prose poétique. Donc le but, si vous voulez, du passage à la prose, c'est de tester un nouveau moyen d'écriture, une nouvelle technique d'écriture. Qu'est-ce que raconte La Nouvelle Espérance? Alors on ne va pas raconter toute l'histoire, bien entendu, mais peut-être déjà faire remarquer que le titre vient du Zarathoustra de Nietzsche. Qu'elle a lu, ou du moins dont elle s'est en partie inspirée. C'est un roman tristanien. Mais qui ne va pas jusqu'au bout du tristanisme. C'est-à-dire, les amants ne meurent pas tous les deux, il n'y en a que l'un des deux qui meurt, et l'autre, par lâcheté, décide de ne pas mourir. Madame de Fontenay, pour résumer en très très grandes lignes, a tout pour être heureuse. C'est dit dès le départ.
Sabine
de Fontenay a tout pour être heureuse. J'ai envie de dire, par un raccourci qui me vient à l'esprit, donc ça va finir mal. Et effectivement, ça finit très mal. Elle se décrit, ou elle est décrite, comme une dévote de l'ardeur. Elle est en permanence en quête du vertige et de la volupté. Elle vit en permanence d'exaltation, de grands sentiments, de grandes émotions, etc. N'oublions pas qu'Anna de Noailles a écrit ce vers magnifique « Mon âme, dit-elle, est comme une pelouse où marchent des lions ». Bien, j'ai envie de dire que les lions ici ont quelque chose à la fois de sauvage et de grandiose, et qu'il y a dans Sabine quelque chose de sauvage et de grandiose et de pathétique en même temps. Alors, comment faire un roman dans un milieu où il ne se passe rien, c'est-à-dire l'aristocratie intelligente qui pétille, et en même temps, comment arriver à la catastrophe? Alors, je décris en quelque sorte la situation en quelques mots. Elle a un mari merveilleux qui ne s'occupe que de science et de politique.
Qui n'est jamais là.
Qui n'est jamais là parce qu'il fait de la science, il fait des voyages, il veut se faire élire, donc il n'est pas
il
là.
Il est presque absent du oui. roman, en fait. Enfin, il brille par son absence, on va dire.
On ne peut pas dire qu'il la comprenne véritablement.
Ni que ça l'intéresse, d'ailleurs.
Oui, et tout le début du roman est un véritable crescendo d'élan morbide ou d'élan jouissif. Alors, je prends juste une scène. À un moment, elle entraîne son mari sur le balcon pour lui montrer la lune qui se lève, qui passe dans les nuages, donc pour qu'il vive un grand moment de romantisme. Et elle lui dit « Quand tout est beau comme maintenant, je voudrais pleurer. Et vous ?» Lui, pas. Voilà. Là, vous avez quelque chose d'une concision extrême et qui est absolument dramatique. Il lui disait gentiment qu'elle était folle et qu'elle pouvait prendre froid. Alors, n'allons pas faire une comparaison entre le mari et Charles Bovary, mais dans les deux cas, il y a une incompréhension, il y a une impossibilité de se connaître en profondeur.
Oui, parce que Charles Bovary, il est quand même fou amoureux de sa femme.
Oui, alors lui, manifestement, est plus un rationnel qu'un passionnel.
Oui, donc, il s'est marié par obligation, voilà, et il fait sa vie.
Et alors, il va l'envoyer chez le docteur, bien entendu, en disant « tu es malade, tu souffres ». Alors, il faut dire aussi qu'elle a perdu une petite fille en bas âge. Donc, en fait, tout est mis sur le compte de ce deuil. « Alors, docteur, dit-elle au médecin, les lunes qui furent suragrigeantes et corinthes ne vous font pas un mal affreux ?» Le docteur lui dit que cela lui était très agréable. Personne ne la comprend. En réalité, personne ne comprend l'intensité de ce qu'elle ressent. Et elle va exprimer cette intensité par une série d'énamorations, pour employer un mot un peu stendhalien. Elle va tomber amoureuse à plusieurs reprises d'amis de son mari ou d'amis de la famille. Alors il y aura un musicien, Jérôme, qui va lui interpréter évidemment la mort d'Isolde qu'on a entendue au piano. Donc évidemment, il y a tradition quand on entend la mort d'Isolde d'être ému. Elle entre dans une lente mais constante dérive. J'ai envie de dire que Sabine de Fontenay, c'est une toxicomane de l'impossible. Mmh. Elle veut trop. Elle veut trop vivre, elle veut trop aimer, elle veut aller trop loin. Et donc, sa vie devient une énamoration perpétuelle, mais en même temps, la chronique d'un effondrement. Donc, elle va se rapprocher d'abord de Jérôme, ce sera un échec total, il va en épouser une autre. Elle va se rapprocher ensuite de Pierre, qui est un ami de son mari, qui, lui, prend très très vite ses distances, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la politique. Donc, tomber amoureux de Madame de Fontenay, ça lui fait peur, manifestement, ça ne l'intéresse pas. Et elle va finir dans les bras de Philippe, justement, qu'on a entendu, qui est professeur au Collège de France, un homme très très sérieux, qui s'intéresse aux nerfs, en particulier, et qui va à la fois l'aimer passionnément, mais l'observer, comme on peut l'observer quand on est neurologue et qu'on a devant soi un cas particulier. Donc, les sentiments, les sensations de Sabine de Fontenay sont perpétuellement sous anesthésie, alors qu'elle est une véritable dionysiaque. On peut se demander si elle ne transcrit pas quelque chose qu'elle aurait pu vivre avec Mathieu de Noailles, qui était lui aussi pas véritablement un personnage passionné, d'après ce qu'on connaît, alors qu'il avait une épouse qui était la passion incarnée. Et donc, Sabine de Fontenay a une exigence de passion, une exigence littéralement mystique d'absolu, dans un monde qui est un monde bien réglé, et surtout qui est un monde masculin. Donc, elle va aller de malentendu en malentendu. D'un malentendu, il y a le mal, il y a le malheur. Et au bout de l'histoire, évidemment, comme pour Madame Bovary, il y a la mort qui l'attend. C'est un roman qui est très audacieux, qui est dans une prose musicale subtile qui a complètement enchanté Proust, dont on a dit qu'il avait le dithyrambe facile, mais là, manifestement, dans la correspondance, on voit qu'il l'a beaucoup apprécié. C'est un roman de libération impossible des sentiments, et c'est surtout le grand roman de l'incompréhension. Chacun occupe son terrain affectif, son terrain intellectuel, et n'est pas prêt à se laisser envahir par l'autre, ou à laisser l'autre, venir jusqu'à soi. Donc Sabine vit dans une exaltation inutile. Et cette exaltation inutile va finir par la faire périr, puisque après des mois, des années d'énamoration inutile, elle a les nerfs à vif, elle devient le bourreau d'elle-même. Et en réalité, quand on lit bien ce texte, on a affaire à une mystique. Et à une mystique sans Dieu.
Et une mystique du sentiment, en fait, de l'amour.
Une mystique du sentiment. et qui veut ressentir justement avec intensité un monde où l'intensité s'arrête à la politesse. Donc tant qu'on est aimable, qu'on est poli, qu'on est dans le social,
ça reste insuffisant.
Tout va bien, mais pour elle c'est insuffisant. Et il y a deux images qui reviennent en permanence dans ce roman, qui est un roman qui est court, mais qui est un grand roman, qui est un très grand roman qu'on a malheureusement oublié. C'est la soif et le mot infini. Voilà. Elle est en recherche d'infini, elle a soif d'autre chose, elle dit à un moment « on meurt de soif et de désir de tout dans mon été ».
Et alors, on retrouve l'été.
On retrouve à nouveau l'été. Et Anna de Noailles dit bien de son personnage qu'elle a vécu une enfance mystique et amoureuse. Et on ferait volontiers, si on cultive un peu le paradoxe, une comparaison avec Thérèse de Lisieux. Alors, toute comparaison n'est pas raison, hein, mutatis mutandis, bien entendu, mais ce qui caractérise Madame de Fontenay, c'est une quête du bien-aimé. Alors, du bien-aimé qui n'est pas le Christ, évidemment, comme chez Thérèse de Lisieux, et on trouve dans les écrits de Thérèse de Lisieux et dans les écrits d'Anna de Noailles une image récurrente qui est l'image du feu. À un moment, elle est chez son amant, et son amant lui dit « ne va pas si près de la cheminée, tu vas te faire mal, tu vas te brûler », et elle dit « mais moi, je mettrai bien mes mains dans le feu ». Je mettrai bien mes mains dedans. Exactement comme Thérèse parle de la brûlure d'amour. Elle est plongée tout entière dans le feu. Donc, il y a une part de mysticisme, en fait, dans ce roman. Alors, mysticisme qui va pas, évidemment, jusqu'à l'adoration perpétuelle du Christ, d'un Dieu, etc. Mais qui fait que vous êtes devant un roman qui a plusieurs fonds. Et l'un des fonds de ce roman, c'est ce que Flaubert appelle dans sa correspondance le catholicisme amoureux. C'est-à-dire que la nuance est très subtile entre l'amour d'un côté et la religion. Elle a la religion de l'amour, elle a la foi, mais qui ne va pas jusqu'à, évidemment, la transcendance et jusqu'au Christ.
Ce qui ressort d'autant plus, François Ravies, c'est qu'elle décrit extrêmement bien aussi l'ennui. L'ennui auquel est confrontée Sabine de Fontenay, mais aussi d'autres héros. Hein. Je pense par exemple au héros, son seul héros masculin, c'est dans son troisième roman, La Domination. Son héros s'appelle Antoine Arnaud. C'est d'ailleurs, il lui ressemble en fait. C'est un écrivain à succès, mais qui s'ennuie terriblement et il est rongé par cet ennui. Et vraiment, elle a des pages très claires, très très acharnées sur cet ennui, tout autant qu'une Emma Bovary pourrait être rongée par l'ennui de la vie en province et des jours qui se ressemblent tous. Alors même que là, Antoine Arnaud ou alors Anna Noailles, pour parler d'elle, ils sont quand même dans le feu, dans le changement de la mondanité, mais là aussi, ils sont rongés par l'ennui.
Le personnage de la domination emprunte certainement beaucoup à la comtesse de Noailles. C'est l'homme qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Donc, c'est un séducteur, c'est un homme politique très connu, c'est un écrivain à succès. Et manifestement, le succès ne lui suffit pas. Il est en quête d'autre chose. Et cette autre chose, ce sera la transgression impossible, puisqu'il tombera amoureux de sa belle-sœur. Et alors là aussi, sans révéler la fin de l'histoire, ça se termine aussi très mal pour les deux. On est dans le mythe tristanien, dans l'un des avatars du mythe tristanien.
On peut dire que ça finit même à chaque fois, c'est tragique. C'est-à-dire que ce soit dans la domination ou dans la nouvelle espérance... Quand vous dites ça se finit mal, c'est un euphémisme. Hein.
Je crois que c'est tragique parce que les personnages sont essentiellement en eux-mêmes tragiques. Je voudrais lire juste une ou deux phrases de La Nouvelle Espérance où Sabine parle d'elle. Et là, on se demande si c'est pas totalement autobiographique. C'est après sa première déception sentimentale lorsque le musicien a pris ses distances, Jérôme, en disant non. Je n'y pense pas. Voilà, disait-elle, je n'avais que cela, maintenant je n'ai rien. Je veux que quelqu'un me prenne la main et je lui dirai, vous êtes bon, et je mourrai, et je serai tranquille, et ce sera si drôle que je sois tranquille, parce que rien en moi, jamais, n'a été tranquille. Voilà, là on est dans l'autoportrait. Et d'abord, cela ne me reposera pas d'être morte, parce qu'il faudra que je sois morte très longtemps pour que quelque chose me repose, et cela sera si fou que je sois morte. Voilà. Vous êtes devant une ardeur dionysiaque perpétuelle qui veut même aller au-delà de la mort, qui veut même vaincre la mort et qui est condamnée par le monde à mourir parce que ce mysticisme sauvage ne peut pas exister en fait dans le monde qu'elle décrit. Alors je mettrai quand même un petit bémol au tragique parce que le deuxième roman qui s'appelle Le Visage émerveillé, 1904, ne se termine pas mal. C'est l'histoire d'une bonne sœur, sœur Sainte-Sophie, dans un couvent. Alors c'est assez étrange parce que c'est une histoire d'amour dans un couvent. On pense aux mousquetaires au couvent, en fait, c'est pas ça du tout. Hein. Puisqu'une jeune sœur va s'amouracher d'un jeune peintre qui vient refaire des peintures dans la chapelle du couvent. Et alors c'est très Roméo et Juliette, c'est-à-dire il monte la rejoindre par une échelle la nuit, enfin il redescend petit matin. Donc c'est une sorte de topos de la relation. Et là, elle ne meurt pas à la fin, mais elle l'envoie promener en disant « Je veux rester seule avec le Christ ». Alors, est-ce que c'est une mort ? C'est une mort au monde, au moins.
Et puis, il y a aussi la présence, on n'en a pas parlé, François Raviez, de l'enfance à chaque fois. Parce que dans les pages qu'on a entendues de La Nouvelle Espérance, elle se souvient en fait d'un été qui était passé de quand elle était petite. De la même manière, il y a beaucoup de poèmes sur l'enfance. Au moment, à la fin du roman La Nouvelle Espérance, Sabine quand même qui choisit en fait de ne plus souffrir, pour le dire de cette manière-là, écrit à Philippe pour lui dire pourquoi elle décide de passer à l'acte. Et elle parle d'une photo d'elle quand elle a 2 ans. Et elle se décrit avec ses petites mains. Et en gros, elle se demande presque qu'est-ce qui s'est passé depuis, mais surtout entre cette photo-là et maintenant. Mais elle voit déjà dans sa photo d'elle petite tout ce qui était contenu de soif d'absolu. Et cette présence en fait de l'enfance comme quintessence de cet absolu revient souvent dans les textes d'Anna Noy, il me semble.
Oui, ça revient très souvent dans cette poésie. L'enfance, c'est non seulement le moment de la formation, mais c'est le premier moment où l'on va absorber le monde, et on l'absorbe avec une grande innocence, avec une grande naïveté et aussi avec une grande violence. Et elle a gardé, je pense, de cette enfance la marque de cette violence heureuse de ses premières années. Qu'on quand même préciser qu'elle vit une vie de luxe. Hein. C'est une petite fille choyée, mais il y a un drame dans son enfance, c'est la mort de son père quand elle a 10 ans, qui meurt brutalement. Et bon, sans entrer dans les arcanes de la psychologie, bien entendu, on peut dire que c'est un moment traumatique très très fort qui va la poursuivre. C'est-à-dire au milieu de l'intensité, au milieu du bonheur de vivre, il y a soudain le surgissement du tragique, le surgissement de la mort, hein, qui va certainement la marquer et qui va laisser son empreinte empreinte en elle. Elle parle d'elle dans un de ses poèmes, et ça pourrait être un enfant qui le dit. Hein. Elle parle de son âme toujours ardente et toujours ivre. Donc une sorte de bonheur de vivre, de bonheur exalté de vivre, qu'on a dans l'enfance, dans une enfance soigneusement préservée, et qu'elle retrouve certainement quand elle écrit.
Anna Noy, je l'ai bien connue pendant une quinzaine d'années, c'est-à-dire vers la fin de sa vie, mais elle est morte jeune. Elle s'est traitée elle-même dans un de ses derniers poèmes de moribonde enfantine. Elle avait gardé les grâces de l'enfant jusqu'à la fin. J'ai connu cet enfant extraordinaire qui avait ébloui le monde lorsqu'elle avait à peine 15 ans, car ses poèmes ont été... Elle a écrit d'une manière très précoce. Elle avait 2 conversations. Elle en avait une pour le public. Elle faisait des morceaux très brillants. Elle avait le sentiment du cocasse. Elle avait des formules éblouissantes. Et puis, il y avait un autre être, pour l'intimité, qui était pathétique, qui aimait à répéter ce mot de Le Comte de Lille, qu'est-ce que tout cela, qui n'est pas éternel. Le sentiment de la fin de la vie était très déchirant chez elle. Comme l'a dit François Mauriac, elle ne se consolait pas d'être une simple mortelle. Elle avait cependant des amis, comme Anatole France, qui lui disait « On a de la peine à croire que vous n'êtes qu'une mortelle, mais enfin... » Elle l'était tout de même, elle s'en rendait compte, et cela remplissait son cœur de détresse.
Le bureau des rêves perdus, c'est le titre de l'émission, très beau titre d'émission radio avec Edmé de la Rochefoucauld. Ça date de 1955, c'était diffusé sur la chaîne parisienne. Et on entend bien ce que dit Edmé de la Rochefoucauld sur Anna Noy, c'est-à-dire cette contradiction en elle, entre d'un côté la jeunesse et la vieillesse, la joie et en même temps la détresse. Est-ce qu'on peut dire, François Raviez, qu'il y a eu une évolution en fait dans sa vie, où il y a eu vraiment un passage de l'un à l'autre de ces états, ou est-ce que tout était déjà contenu dans tout d'une certaine manière? Est-ce que dès l'enfance, voilà, il y avait quand même cet événement tragique qui est venu trouer en fait ce bonheur?
pense que tout est dit tout de suite, dès le premier recueil. Dès les premiers recueils du Cœur innombrable, on a la face obscure et la face lumineuse. Alors, dans certains recueils, la face lumineuse sera éclatante, ce sera les éblouissements, on est devant le soleil. Dans d'autres recueils, ce sera la face obscure qui sera plus prégnante. Mais tout est dit dès le départ et tout est dit dès les premières pages de La Nouvelle Espérance. Anna de Noailles écrit toujours la même chose, finalement. C'est-à-dire cette duplicité en elle, cette ambivalence perpétuelle entre les abîmes d'un côté, les ténèbres, hein, et puis de l'autre côté, un bonheur de vivre qui est absolument inextinguible.
Qu'est-ce que, par quoi on pourrait commencer en fait, d'Anna de Noailles, François Raviès ? Parce que finalement, si tout est présent dès le début, si sa poésie peut un petit peu déconcerter, c'est-à-dire en 2023, est-ce qu'on est habitué à du Hugo, à du Lamartine, mais on ne va pas forcément penser à lire Anna de Noailles ? Par quoi on commence ? Comment ça se porte par cette poésie qu'on lit maintenant dans sa tête et qu'on déclame plus à voix haute ?
À mon avis, il faut commencer par La Nouvelle Espérance.
Donc,
il faut commencer par le roman, parce que nous avons des habitudes de lecture. Nous sommes des lecteurs de romans maintenant. Nous ne sommes plus beaucoup des lecteurs de poésie. On commence par le roman, puis on se laisse porter. Je pense qu'il faut être comme un petit papillon qui va de fleur en fleur. Et puis se dire, je vais en lire un texte chaque jour, ou en lire plusieurs textes, sans s'immerger dans le recueil complet. Il faut peut-être aller d'un texte à l'autre. Je crois qu'il faut butiner cette poésie pour y être sensible progressivement et pour en tirer justement quelque chose d'intime jusqu'au moment, on va la lire jusqu'au moment où il y aura une résonance avec nous, il y aura une résonance avec ce que nous sommes. Et dès qu'on aura eu cet effet d'accroche, eh bien ça y est, on deviendra non pas un dévot de l'ardeur, mais un dévot de la comtesse de Noailles.
Alors c'est vrai que quand on lit la Nouvelle Espérance, il y a cette expérience qui se fait, c'est qu'au départ, ça paraît presque surprenant, cette manière de presque, je dirais, d'étaler, hein, c'est un petit peu péjoratif, mais c'est ça d'une certaine manière, d'étaler sans filtre toutes les émotions qui traversent Sabine en l'occurrence, mais qui peuvent nous traverser. Et finalement, on a perdu ce lyrisme-là, on écrit maintenant de manière beaucoup plus sobre. C'est ça aussi qui est vraiment désarmant quand on lit Anna de Noailles aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait renouer avec une forme de lyrisme, François Raviès ?
Oh, certainement, mais je pense que le lyrisme, il est toujours présent. Il peut s'exprimer de manière très sobre aussi. Et le but est d'entrer, en quelque sorte, dans la lecture du monde d'une grande poétesse. Et pour entrer dans sa lecture du monde, le mieux, c'est de la lire. Et Proust ne s'y est pas trompé du tout. Je voudrais citer juste une phrase de Proust sur Chateaubriand. On est dans les années à peu près 1900, et donc c'est le grand moment de l'amitié. Et Proust dit du poète qu'il a quelque chose de supérieur aux choses, aux événements et aux années. On sent sous sa phrase une autre réalité transparente sous la phrase, et il finit ainsi, donc il parle de Chateaubriand, mais on a l'impression qu'il parle de la comtesse de Noailles, en évoquant le pouvoir merveilleux et transcendant de la poésie qui a donné naissance à des personnes merveilleuses et transcendantes.
Merci beaucoup François Raviès. On va s'arrêter sur cette phrase de Proust à propos de Chateaubriand, mais qui en fait pourrait parfaitement s'adapter à Anna de Noailles. Alors d'Anna de Noailles, justement, on peut lire donc votre édition de l'anthologie poétique et romanesque « Je n'étais pas faite pour être morte ». C'est aux éditions Le Livre de Poche, mais on peut aussi lire d'elle, vous l'avez dit, commencez par là, auditeur, auditrice, La Nouvelle Espérance et La Domination, ensuite, qui sont aux éditions Biblio, Livre de Poche. Et sur un tout autre sujet, François Raviès, je signale que vous avez édité L'Histoire des chats de Paradis de Moncrif, suivi de L'Histoire des rats de Bourdon de Sigret, et ça, c'est au Livre de Poche. Merci. Sur un tout autre sujet, on est d'accord. Et merci beaucoup à vous, François Raviès.
Merci à vous.
Il y avait un jour une petite fille, très docile, très sage et très gentille, adorant sa maman, son papa, qui répondait au nom d'Anna. Mais dès lors qu'on la secondise, elle était tellement indécise et manquait tant de volonté qu'on ne cessait de lui répéter Hosanna, Hosanna, allons voyons, ose un peu, Hosanna, Hosanna, ose dire ce que tu veux, parle pose, Anna, ose dire quelque chose, dis n'importe quoi, mais dis-le, mais et crois-toi, à force de l'empiler, tu verras, ici pas, tout te passera sous le nez. C'est stupide, c'est timide, aux années. Hosanna, Dieu c'est bête comme ça. À 20 ans, ses parents la marièrent.
Et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laetitia Pringuet, réalisation Nicolas Berger, prise de son Nicolas Bonnet. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.
Anna,